18h59 sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 20h dans un instant. Le journal d'Isabelle Millet à 19h10, le conseil de lecture de Stéphane Place, un livre pour l'été aujourd'hui, le dernier roman de Jonathan Coe. Et puis à partir de 19h20, on parlera d'un homme dont on parlait tous les jours il y a encore quelques mois et qui aimerait visiblement qu'on retrouve cette habitude. Donald Trump est de retour, mais jusqu'où veut-il aller? Avec quel soutien chez les électeurs et les élus républicains? On en débat dans quelques instants. Mais d'abord, on fait donc un nouveau point sur l'information avec Isabelle Millet. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Les clients pensaient manger des légumes français. En fait, ils étaient espagnols. Dans le sud de la France, un grossiste est soupçonné d'avoir trafiqué des étiquettes à grande échelle.
Le débat sur la vaccination obligatoire des soignants pour l'infectiologue Odile Launay, c'est une nécessité.
Le numéro 2 des Républicains appelle à soutenir Xavier Bertrand comme candidat à la présidentielle. Problème, il ne fait plus partie des Républicains. Drôle d'ambiance hein, chez LR. Ce soir, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Hervé Morin appellent à une primaire de la droite et du centre.
Dernière semaine au procès 3DEC. Avec la diffusion cet après-midi d'un nouvel enregistrement troublant.
Repos bien mérité aujourd'hui pour les coureurs du Tour de France, mais pas de grasse mat hein, et pas de fiesta non plus, nous dira Marguerite Lefebvre. Et puis dernier préparatif à Cannes, avant la fiesta justement, le coup d'envoi du festival c'est demain.
La météo, Marlène Duret.
Eh bien, notre attention est tournée vers l'ouest de la Bretagne, Rémy et le Cotentin aussi en raison de ce coup de vent attendu ce soir et cette nuit. Des rafales de vent pouvant atteindre les 90 km/h dans l'intérieur des terres, 110 sur les côtes. Et ce coup de vent s'accompagne d'un épisode de forte vague. On en parlera dans quelques minutes. Changement drastique d'ambiance du côté du ciel avec notamment de bonnes pluies orageuses en Franche-Comté et Rhône-Alpes. Les températures maximales auront tendance à baisser.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et d'abord donc cette histoire de tromperie sur la marchandise.
Des milliers de consommateurs du sud de la France ont acheté des légumes qu'ils croyaient français, alors que pas du tout, Gladys Laffitte.
Et non, ils étaient espagnols. Des courgettes, des poivrons ou encore des asperges vendues dans la grande distribution, pourtant bien étiquetées comme provenant de France. Impossible pour le consommateur, ni même pour les enseignes, de s'en rendre compte. C'est ce qui s'appelle la francisation. C'est illégal, bien sûr. Et dans le secteur de Tarascon, un homme, grossiste de fruits et légumes, est soupçonné d'y avoir recours depuis au moins l'année dernière. Des centaines de tonnes de légumes seraient concernées. En fait, il achetait ses produits en Espagne, moins cher donc, et changeait tout simplement les étiquettes espagnoles des colis et des emballages pour d'autres indiquant origine France qui se revendent plus cher. Il éditait même des factures lui-même avec cette fausse origine. Alors des perquisitions et des gardes à vue ont eu lieu depuis la mi-juin dans cette affaire. Les enquêteurs cherchent d'éventuels complices. Ils suspectent d'ailleurs un conditionneur de fruits et légumes. En tout cas, cette fraude est une pratique commerciale trompeuse, punie jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende.
Gladys Laffitte du service police justice d'Europe 1. Le débat sur la vaccination obligatoire des soignants contre le Covid-19 s'est poursuivi tout le week-end, vous le savez, et l'exécutif entend bien multiplier les consultations au cours des prochains jours autour de cette question.
Invitée d'Europe Midi, la professeure et infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris, Odile Launay, estime que cette obligation pourrait bel et bien devenir une nécessité.
Alors l'obligation, c'est toujours un aveu qu'on a échoué, en tous les cas, dans la communication et dans la persuasion qu'on peut avoir d'arriver à une adhésion à cette vaccination. Encore une fois, ce vaccin, je comprends très bien qu'en janvier, on pouvait avoir des inquiétudes. On est maintenant en juillet, on l'a dit, vacciné 3 milliards de personnes dans le monde. On sait que ce vaccin est efficace, on sait que ce vaccin est sûr. Je crois que maintenant, si effectivement on n'arrive pas à augmenter la couverture vaccinale, en particulier donc dans ces populations qui sont en contact avec des gens fragiles, eh bien ça sera potentiellement, mais ça c'est à nos dirigeants de prendre cette décision, ça peut être la nécessité de la rendre obligatoire. Mais encore une fois, je pense que ça veut dire qu'on a échoué dans cette communication vis-à-vis de ce vaccin et de l'importance de se faire vacciner pour les soignants, mais aussi en population générale. Et je voudrais le redire, c'est toute la population qui est concernée par cette vaccination.
L'infectiologue Odile Launay, qui était mon invité à la mi-journée sur Europe 1. L'affaire de soupçon de prise illégale d'intérêt qui vise Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, est convoqué devant les juges le 16 juillet.
Convocation en vue de sa mise en examen. Le ministre de la Justice est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions pour intervenir dans des dossiers dans lesquels il était auparavant avocat. À la veille du bureau politique des Républicains, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Bruno Bruno Retailleau, Hervé Morin appellent ce soir à une primaire ouverte de la droite et du centre pour désigner leur candidat, le candidat de leur famille politique. Ils refusent de s'en remettre au sondage. Ils promettent d'y avoir de l'ambiance hein, demain, d'autant plus que ce matin, c'est le numéro 2 du parti qui a mis les pieds dans le plat.
Et dans le journal Le Parisien, Guillaume Pelletier annonce son soutien à Xavier Bertrand, qui, faut-il le rappeler, ne fait plus partie des Républicains, Aurélie Herbemont.
Et oui, Xavier Bertrand est un ex-LR, déjà candidat à la présidentielle et surtout réfractaire à toute idée de primaire avec ses rivaux de droite. Le soutien de Guillaume Pelletier est tout sauf une surprise. Depuis des mois, le numéro 2 de LR travaille avec le président des Hauts-de-France, qu'il considère comme le plus à même de parler à la France populaire. Mais le timing n'est pas du goût de tous. Guillaume Pelletier présente Xavier Bertrand comme le candidat naturel de la droite et torpille en même temps l'idée d'une primaire. À la veille du bureau politique censé acter le calendrier de la primaire pour choisir le candidat en 2022. Son avis, tout le monde s'en fiche, balance un proche de Laurent Wauquiez, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes qui lui viendra plaider pour la primaire demain. Bref, les esprits s'échauffent un peu, tout le monde montre les muscles avant le bureau politique, dédramatise un dirigeant, c'est normal. Mais il ne faut pas que ça tire à U et à Dia, sinon... on est foutu.
Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1. Chez les écologistes, ça se bouscule pour la primaire en vue de la présidentielle. Avec une nouvelle candidate aujourd'hui, Delphine Batteau rejointe Éric Piolle, Jean-Marc Governatori, Sandrine Rousseau et Yannick Jadot.
19h passées de 6 minutes sur Europe 1. Dernière semaine au procès du Berkaouissin accusé de 4 meurtres et de sa compagne Lydie Troadec.
Une journée consacrée à la déposition de 2 nouveaux experts psychiatres et à l'interrogatoire des accusés. Charles Guyard, on a surtout entendu aujourd'hui un nouvel enregistrement, cet après-midi, qui en dit long sur la personnalité et sur l'état d'esprit de Lydie Troadec à cette époque.
Oui, on est le 25 décembre 2013 dans la voiture du couple Caouissin-Troadec. Hubert conduit, Lydie est passagère, leur petit garçon assis à l'arrière et en fond, on distingue un air connu des Beatles, mais vite recouvert par la voix de la mère de famille. « Ah les enfoirés, un égoïste fini, ça m'écœure » explose-t-elle devant la barrière baissée de la maison. Évidemment, son frère Pascal l'a fait exprès. « Tu ne crois pas qu'il aurait pu l'ouvrir ?» L'enfant répète une insulte, sa mère le recadre en riant, ça reste entre nous, hein, tu lui dis pas. Retour dans la salle d'audience. L'effet est dévastateur pour Lydie Troadec, dont la voix chevrotante d'aujourd'hui sonne bien faux après le ton très offensif entendu dans cette scène 8 ans plus tôt. Maître Olivier Pachelin, des avocats de la partie civile.
Évidemment, elle n'est pas qu'une suiveuse. L'image qu'elle donne devant la cour d'assises est absolument différente de celle qu'elle donnait très certainement à l'époque des faits. Ce qui ressort de ces enregistrements, c'est une véritable haine. Évidemment, elle refuse le mot haine. Elle a bien compris que cela lui serait absolument tout à fait défavorable dans la perspective de la décision qui sera rendue par la cour d'assises dans les jours à venir.
Demain, place aux plaidoiries, des parties civiles et aux réquisitions. Le verdict est attendu mercredi soir, poursuivi pour modification des lieux du crime et recel de cadavres. Lydie Troadec risque 3 ans de prison maximum. Le meurtrier présumé, Hubert Caouissin, encourt lui la perpétuité.
Charles Guyard qui suit ce procès pour Europe 1. Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé se défendent après la diffusion d'une vidéo polémique qui fait le tour des réseaux sociaux. On y entend notamment Dembélé en 2019 se moquer de 3 japonais, tandis que Griezmann apparemment sourit à ses moqueries, dont certains dénoncent le caractère raciste, vidéo pour le moins embarrassante, en tout cas pour les 2 coéquipiers du FC Barcelone, sachant par ailleurs que le géant japonais Rakuten est le sponsor officiel du Barça.
Et aujourd'hui, Dembélé a présenté ses excuses. Quant à Griezmann, il réagit sur les réseaux sociaux. « Je me suis toujours engagé, dit-il, contre toute forme de discrimination. On veut me faire passer pour l'homme que je ne suis pas. Je suis désolé si j'ai pu offenser mes amis japonais. »
Après les conditions dantesques de l'étape d'hier sur le Tour de France, les coureurs ont pu profiter aujourd'hui d'une journée de repos amplement méritée.
Le Tour de France. L'événement est sur Europe 1.
Journée off donc ce lundi pour les cyclistes et pour leurs équipes après 9 jours de course et 2 étapes alpines qui ont marqué hein, les organismes. Mais Marguerite Lefèvre, une journée de repos, eh bien, c'est quand même une journée bien remplie.
Ah oui, pas de grasse mat sur le Tour de France. Dès ce matin, la plupart des coureurs ont repris leur vélo pour aller rouler, doucement certes, mais tout de même 1 heure ou 2, sous le soleil qui est revenu dans les Alpes, et ça, ça fait du bien. Alors comme en septembre, le peloton doit rester dans sa bulle sanitaire. Vous savez, les coureurs n'ont pas le droit de voir leur famille en raison du Covid. C'était avant leur petite respiration qui n'a donc pas lieu cette année encore. Aujourd'hui, tous les contacts ont dû se faire par écran interposé. C'est d'ailleurs derrière son ordinateur que le Français David Godu nous a répondu après cette première semaine éprouvante au milieu des chutes et du froid.
J'ai vraiment fait une première semaine d'un grand tour comme ça, avec autant d'intensité, autant de nervosité. Et faut surtout réussir à gérer cette journée de repos. Et on ne sait jamais comment le corps peut réagir à des journées de repos. On ne sait jamais trop ce qu'il faut faire, s'il faut rajouter un petit peu, récupérer, surtout après des premières semaines comme ça. Là, ce sera vraiment le Mont Ventoux qui va déterminer si on a récupéré ou pas de la première semaine.
Le Mont Ventoux que les coureurs graviront mercredi, avant une étape moins compliquée demain, 190 km de plat entre Albertville et Valence. Une étape qui ne devrait pas poser de problème au maillot jaune Tadej Pogacar.
Merci Marguerite Lefebvre qui suit pour Europe 1 ce Tour de France.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy, l'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le coup d'envoi du Festival d'Avignon ce soir.
Avec port du masque obligatoire pour les festivaliers, en revanche, les visiteurs ne seront limités ni par des jauges, ni par le pass sanitaire, sauf dans la cour d'honneur. Le festival qui connaît son futur directeur, celui qui succédera à Olivier Py en septembre 2022. Il s'agit du metteur en scène portugais Tiago Rodrigues qui présente justement ce soir sa version de la cerisée de Tchekhov avec Isabelle Huppert.
J-1 avant un autre festival.
Ouais, sans les derniers préparatifs à Cannes, hein, où tout est prêt. On vous retrouve en direct, Mathieu Charrier. Il ne manque, semble-t-il, que le fameux tapis rouge qui sera déroulé demain matin.
Oui, exactement. Mais l'affiche géante cette année trône déjà sur le palais des festivals avec Spike Lee et sa casquette qui semble veiller sur la croisette. Vous savez, c'est lui qui préside le jury. D'ailleurs, il est arrivé hier soir en survêtement floqué Paris Saint-Germain. Dans son jury, notamment Tahar Rahim ou Mylène Farmer qui, eux, aussi sont en train d'installer. Alors, côté compétition, 24 films en la Palme d'Or, dont 6 français. Demain soir, ouverture avec Adam Driver et Marion Cotillard dans l'opéra rock signé Léo Scarrax, Annette. Et puis, ça va dérouler toute la semaine, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, j'ai déjà vu une petite partie de la sélection et je peux vous dire que le niveau s'annonce très relevé. Pour le reste, ce qui est assez amusant, c'est qu'on est, vous le savez, en juillet. Il y a donc ce festival, mais aussi les touristes qui sont eux aussi arrivés et qui, pour certains, finalement, découvrent que le festival a lieu en ce moment. Ils vont me dire qu'ils pourront profiter de pas mal de séances sur le cinéma de la plage, notamment l'avant-première mondiale du blockbuster Fast and Furious numéro 9. Et puis, il y a le nouveau multiplex de Cannes aussi qui va diffuser la compétition. Donc voilà, tout le monde compte bien célébrer ici la réouverture des salles, alors qu'on a appris tout à l'heure que près de 8 500 000 Français sont allés au cinéma en juin. C'est un peu moins qu'il y a 2 ans avant la pandémie, mais c'est évidemment un chiffre très encourageant et que tout le monde ici sur la croisette interprète comme un renouveau du cinéma français et mondial.
Mathieu Charrier, spécialiste cinéma d'Europe 1 qui nous fera vivre cette quinzaine à Cannes. Ce sont encore les derniers préparatifs. On le disait, on va avoir le temps de régler la ligne d'ici demain matin.
C'est important. Merci Isabelle Millet et à demain. La météo, Marlène Duret, vous nous annoncez un changement d'ambiance demain.
Oui, un changement de décor en tout cas pour les régions méridionales. Sauf de la Provence-Alpes-Côte d'Azur à la Corse, là on mise toujours sur le bleu toute la journée. Au nord, ce coup de vent que l'on vous annonce pour commencer et qui va s'attarder sur le Finistère avant de gagner le Cotentin en fin de nuit avec des pointes à 100-110 km à l'heure sur le littoral et jusqu'à 80-90 dans l'intérieur des terres. Ces vents s'accompagneront, je le disais tout à l'heure, d'un épisode de forte vague plutôt inhabituel pour la saison entre le Sud-Bretagne et la Vendée. Alors demain, ce ne sera pas le moment de faire une balade en bateau. Hein. Un temps instable en plus se mettra en place dans le nord-ouest avec des averses. Ciel couvert des Pyrénées au Grand Est avec de bonnes intensités de pluie par endroit. Ce sera une journée bien pluvieuse en région Rhône-Alpes et Franche-Comté. Et puis une petite zone semble épargnée ce mardi. Elle s'étend des Ardennes à la région parisienne, le Limousin, les Charentes et le Nord-Aquitaine. On croise les doigts. Les températures maximales seront en baisse, surtout dans le sud-ouest avec 21 à 24 degrés. Ailleurs, on attend 18 à 22, 22 à Paris, 25 à 30 près de la Méditerranée, 27 à Cannes. Alors, je voyais sur le site de Météo France, 40 degrés en température ressentie. Je viens de vérifier, c'est une erreur. Ah. Donc voilà, si on regarde le site de Météo France, la température de ressenti ne sera pas de 40 degrés à Cannes et nous aurons 32 en Corse.
Nous sommes soulagés pour Mathieu Charrier notamment qui ne souffrira pas de cette forte chaleur. Merci beaucoup Marlène. 19h passé de 13 minutes. Dans un instant, votre grand débat sur Europe 1 et le retour programmé de Donald Trump. Peut-il être à nouveau candidat en 2024? On en parle dans un instant. Mais d'abord, un livre pour l'été. 4e saison de ce rendez-vous en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux, institution bordelaise. Pendant tout l'été, Stéphane Tasse, notre correspondant dans le sud-ouest, va nous replonger, nous proposer des ouvrages qu'il faut dévorer en priorité, selon lui, selon les libraires de la librairie Mola, sur la plage ou en terrasse. Et on commence avec une valeur sûre, hein, Stéphane, puisqu'il s'agit d'un roman déjà salué par la critique, le dernier roman en date de Jonathan Coe.
30 romans dont l'incontournable Testament à l'anglaise dans les années 90. Jonathan Coe, c'est d'abord le chroniqueur génial de son propre pays, l'Angleterre. Il l'a encore démontré avec sa trilogie, dont le troisième opus se déroule sur fond de Brexit. Mais là, dans son dernier ouvrage, l'écrivain change de décor. La Grèce, Los Angeles notamment, où durant l'été 1977, une jeune femme, Callista, se retrouve un peu par hasard à la table d'un immense réalisateur hollywoodien dont elle ignore à peu près tout, Billy Wilder. Au crépuscule de sa carrière, il va l'embarquer comme interprète sur le tournage de son avant-dernier film, Fedora. Billy Wilder et moi, c'est un bonheur de lecture qu'il ne faut pas rater. Lucie Leroy, libraire chez Mola.
C'est un roman, Callista est un personnage fictif. En revanche, c'est bourré d'anecdotes réelles. Jonathan Coe nous fait vraiment passer son amour pour Billy Wilder et pour ce cinéma des années 50. Et donc c'est vraiment la confrontation entre cet homme âgé qui a vécu des choses et qui est un petit peu dans une certaine amertume et cette jeune fille, Callista, qui a la vie devant elle, qui n'a connu que la Grèce des généraux et tout d'un coup il y a un monde devant elle qui s'ouvre. C'est cette rencontre aussi qui est vraiment extraordinaire dans ce livre. Callista, on l'apprendra, se servira de cette expérience pour franchir des frontières à la fois physiques puisqu'elle changera de pays et aussi professionnelle puisqu'elle fera partie de ce monde du cinéma qui l'a tant fait rêver.
Comme son héroïne, c'est au milieu des années 70 que Jonathan Coe a découvert le réalisateur hollywoodien en regardant un soir à la télé La vie privée de Sherlock Holmes, diffusée alors par la BBC et réalisée par un certain Billy Wilder.
Voir ce film m'a changé et m'a fait passer d'un fan de Sherlock Holmes à un fan de Billy Wilder. Et tout comme Callista dans mon livre, nous sommes au milieu des années 70, donc ça n'était pas facile d'avoir des informations sur Billy Wilder. Si vous viviez dans les banlieues tranquilles de Birmingham, ça n'était vraiment pas simple. Pas d'internet, pas de Google, pas de DVD, pas de streaming. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver plus d'informations sur lui, pour me rendre compte qu'il était l'un des plus célèbres réalisateurs d'Hollywood, pour apprendre les noms des films comme Certains l'aiment chaud et Boulevard du Crépuscule, et pour voir ces films, parce que le seul moyen de les voir, c'était d'attendre qu'ils passent à la télévision.
Et ce roman à peine terminé, vous n'aurez qu'une envie, découvrir ou revoir les films de Billy Wilder comme Boulevard du Crépuscule, Certains l'aiment chaud ou encore Fedora.
Merci Stéphane Place. Un livre pour l'été, évidemment, on suivra ça comme son nom l'indique, tout l'été avec vous et avec le partenariat précieux de la librairie Mola à Bordeaux.
Europe 1, Rémi Bozzaro.
Dans un instant, votre grand débat d'Europe Soir avec cette question qui se pose aux États-Unis mais qui concerne finalement le monde entier. Donald Trump peut-il revenir au pouvoir en 2024? A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Rémi Bozzaro.
19h et bientôt 20 minutes sur Europe 1 et on retrouve comme tous les soirs le club des idées, le débat du club des idées avec un homme qui va revenir sans doute très vite au cœur de toutes les conversations, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. Donald Trump fait-il son retour? Il fait son retour de fait, il a repris les meetings qu'on le connaissait, qui ont fait sa gloire et sans doute son élection ces dernières semaines. On le retrouve sur scène, on sait qu'il a l'envie de peser sur les élections de mi-mandat en 2022 aux États-Unis et bien sûr de gêner Joe Biden dont il n'a jamais reconnu la victoire à la présidence. Mais jusqu'où peut-il aller? Peut-on imaginer une candidature en 2024 de Donald Trump? C'est la question que nous allons essayer de travailler avec nos quatre experts ce soir. Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph. Bonsoir.
Bonsoir.
Randy Yalos, avocat franco-américain, président des représentants du Parti Républicain en France. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université de Paris 2, Assas et auteur de Joe Biden, biographie au Nouveau Monde édition. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Et Alexandre Mandel, journaliste et écrivain et auteur de Chez Trump aux éditions L'Artilleur. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, je vais poser une question simple pour commencer à vous, peut-être Anne-Elisabeth Moutet. Je disais, il y a cette hypothèse d'une candidature de Donald Trump en 2024. Il revient dans le jeu actuellement, il revient sur scène actuellement. Tout simplement, vous, est-ce que vous y croyez à cette candidature de Donald Trump en 2024?
Alors, je pense que c'est possible. La question à se poser, c'est est-ce que ça va être une candidature au sein du Parti Républicain ou bien en troisième, en candidat d'une troisième voie. Ce sont des candidats qui n'ont jamais été élus dans l'histoire des États-Unis. Monsieur me corrigera si je me trompe.
Grover Cleveland, c'est le seul. Il y avait un autre président qui était président en 1884. Oh, il y avait une seule exception.
Il
y a une exception dans l'histoire de l'Amérique.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump est aussi le républicain qui a fait le plus de voix dans toute l'histoire politique américaine, c'est-à-dire 80 millions de voix. Il a un électorat qui non seulement se sent abandonné à tort ou à raison, sur certaines choses, et en particulier sur ce qui a été confirmé par la Cour suprême, c'est-à-dire la légalité de l'élection de Donald Trump, c'est une impression. Mais sur d'autres cas, le fait que cet électorat n'est plus pris en compte et au contraire stigmatisé, c'est une vraie réalité. Trump avait réussi à la surprise de tout le monde en 2016 parce qu'il parlait pour... même si c'était de son superbe truc de milliardaire à Palm Beach, il parlait pour les pauvres, il parlait pour les gens qu'on n'écoutait pas, il parlait pour les gens pas chics, il parlait pour les gens qui habitent au centre du pays, entre les deux côtes, ce qu'on appelle en anglais, et c'est méprisant, flyover country. Qu'est-ce que c'est flyover? Ça veut dire que ce sont les gens qui habitent dans ces endroits tellement plouques que les avions qui vont à Los Angeles de New York, par exemple, passent au-dessus des flyovers. Et il représentait quelque chose de vrai. Or, l'élection de Joe Biden et de sa vice-présidente a été suivie par un vrai virage idéologique qui est perçu. Et donc, il y a une possibilité. Il y a une possibilité que même s'il est stigmatisé, même s'il est viré de Facebook, même s'il est viré de Twitter, Trump est tout de même un poids politique important. On ne sait pas encore.
Hein. Ouais, je vais vous poser la même question avec une petite nuance, Randy Yalos, puisque vous représentez les Républicains en France. Est-ce que vous imaginez une candidature de Donald Trump pour 2024 et est-ce que selon vous, cette candidature est souhaitable?
Vous savez, il est un politicien extrêmement doué. Il occupe le terrain. Il n'a pas d'autres concurrents de poids dans le parti républicain qui ose faire concurrencer Trump à ce jour. Et on ne peut même pas dire qui potentiellement sera. Et ceux qui pensent pouvoir être des candidats se placent éventuellement en tant que vice-président, même M. DeSantis, qui est le gouverneur de Floride, qui est à une cote très, très populaire aux États-Unis, s'est dit qu'éventuellement, il sera vice-président avec Trump s'il décide de poursuivre sa voix vers les élections présidentielles en 2024. Donc, vous voyez, même ceux qui sont au sein du pouvoir républicain n'osent pas aller contre Trump. Il occupe les terrains médiatiques, il occupe aussi tous les meetings, il rend la vie extrêmement dure pour les démocrates. Il va partout, il appuie là où ça fait mal, à chaque politique, à la frontière, et il sait comment faire de la politique. Et c'est un homme qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de suivi, beaucoup d'écoute. Regardez les médias, ils les suivent. On en parle de lui aujourd'hui. Et tout le monde est en train de discuter, parler du Trump comme s'il était déjà président.
Mais vous êtes un militant républicain du Parti des Républicains. Est-ce que c'est sain pour ce parti que ce candidat qui a été discrédité, battu, soit toujours aussi puissant au sein de ce parti?
Je reprends ce que vous dites. Vous dites qu'il était discrédité. Non. Pourquoi vous dites qu'il était discrédité? Parce que selon ce que M. Trump dit, qu'il y a des élections contestées, mais pour lui, il, comme Madame a bien souligné, c'est le président qui a eu le plus grand nombre d'électeurs dans l'histoire de l'Amérique. Et ça, cela, il ne faut pas l'ignorer. Il y a plusieurs millions de personnes qui n'ont jamais voté. Et pour la première fois, ils ont voté en 2016. Et ils représentent ces personnes. Aujourd'hui, les républicains se sont lésés par les gouvernements, se sont lésés par les GAFA qui continuent à stigmatiser tous les républicains et conservateurs à tour des bras, les médias également. Donc, c'est la vie pour les républicains est très difficile en Amérique. Donc, vous allez trouver un appui très fort autour de M. Trump. Et aujourd'hui, il réinvigore l'énergie et la force des Américains pour les futures élections. Aujourd'hui, on constate déjà dans l'État d'Arizona, il y a un audit qui a eu lieu. Il y a déjà... Aujourd'hui, ça a été déjà décidé qu'ils vont changer toutes les machines pour les élections d'Arizona. Ils ont décidé qu'ils ont remplacé toutes les machines. Donc, on va être face à une situation qui n'est pas tout à fait claire aujourd'hui, où on va par rapport à toutes ces questions d'audit. Il y a des contestations en cours.
Donc, il peut continuer à jouer sur cette carte-là de la contestation du résultat.
Les enjeux sont encore là et les problèmes des élections de 2020 ne sont pas finis. Et aujourd'hui, on constate même que la Cour suprême a donner la victoire à l'État de l'Arizona, il y a la semaine dernière, concernant une contestation qui a été faite par le Parti démocrate pour essayer de limiter les pouvoirs des États en matière électorale.
Jean-Éric Brana, je vous pose une question, il faudra répondre malheureusement très rapidement, mais cette même question, cette candidature de Trump en 2024, comme les deux premiers interlocuteurs qu'on a entendus, vous pensez aussi qu'il y a toujours cette dynamique et cette base nécessaire pour se représenter en 2024?
Alors j'ai bien compris que vous voulez que je parle vite, mais je vais quand même corriger Anne-Elisabeth, elle ne m'en voudra pas, c'est pas 80 millions de voix pour Donald Trump, mais c'est 74 millions 200, ça a pèse quand même son poids de cacahuète, puisque les 80 millions de voix, c'était Joe Biden. Et ça me permet de répondre à votre question. Pour l'instant, ce sont les démocrates qui ont le vent en poupe, puisque c'est eux qui ont gagné la présidentielle, c'est eux qui ont les urnes de leur côté. La question, c'est où est-ce qu'on en sera en 2024? Or, pour savoir où on en sera en 2024, il va d'abord falloir savoir où on en sera dans les redécoupages, puisqu'il vient d'y avoir un recensement. Et en réalité, c'est bien le poids au Sénat et à la Chambre qui va permettre de faire une dynamique qui fera ou pas gagner Donald Trump, parce que le fait de gagner la présidence seul n'a vraiment aucun intérêt aux États-Unis, puisque tout se joue avec le Congrès. Maintenant, pour le cas particulier de Donald Trump, il y a deux voies en réalité. C'est vrai que c'est une bête politique, c'est vrai qu'il veut encore exister, mais il a quand même perdu pas mal de d'aura depuis qu'il n'est plus là. On le voit. Alors j'entendais Randy Allos, bien sûr, qui expliquait qu'on parlait de lui dans les médias, mais on n'a pas parlé de lui pour Saratossa samedi dernier. On n'a quasiment pas parlé de lui quand il est à la frontière il y a quelques jours. On n'a quasiment pas parlé de lui quand il a repris son meeting dans l'Ohio. En réalité, la vie politique a cela de très dur, comme partout, c'est qu'on s'intéresse à ceux qui sont devant et qui ont les manettes, et Donald Trump n'a plus les manettes. Or, s'il n'arrive pas à renverser la table avec le Parti républicain dans les élections de mi-mandat, eh bien, il n'aura strictement aucune chance pour 2024. Donc, ouais, et justement, j'ai envie de vous dire, on va se donner rendez-vous en 2022 pour avoir la réponse à cette question.
Ces élections de mi-mandat, on va en parler dans un instant avec vous et avec Alexandre Mandel, que je n'ai pas oublié, évidemment, qu'on va entendre dans un instant pour la suite de ce débat sur le possible, probable retour de Donald Trump.
Europe Soir, le 18-20, Rémi Botsaron.
Le débat du Club des idées avec ce soir, ce sujet qui concerne la planète entière, évidemment. Donald Trump pourrait-il revenir au pouvoir aux États-Unis en 2024? On a bien compris dans la première partie qu'il avait pour l'instant le but d'être entendu, d'être visible, en remontant sur scène, en retrouvant les meetings qui ont fait son succès. Mais Alexandre Mandel, je me tourne vers vous. C'est bien beau d'être entendu et vu. Donald Trump doit prouver qu'il pèse désormais. L'enjeu, c'est avant 2024 de peser sur les élections de mi-mandat en 2022, l'année prochaine, c'est ça?
Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, vous constaterez que les deux premiers meetings qu'il a fait en Floride et dans l'Ohio, c'est quand même dans des États où il est persuadé que dans la Chambre des représentants, il gagnera. Il va jamais dans les États où il pourrait perdre deux sièges au Sénat. Je rappelle ça sous le contrôle de Jean-Éric Branat, hein, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur les 19 élections qui ont eu lieu de mi-mandat, 17 fois le parti opposé au président en place avait gagné les élections.
Je crois qu'on a peut-être perdu Alexandre Mandel au moment de son explication. Alors Jean-Éric Branat, si vous voulez prendre le relais de l'explication qui était en train d'être développée par Alexandre Mandel, je vous en prie.
Oui, je vais la compléter par contre, parce que en réalité, je vais faire plaisir à Randy Allos là-dessus. C'est vrai que le parti présidentiel normalement perd ses élections de mi-mandat, oui. Et je vais continuer, je pense que vous voulez dire Alexandre, c'était que cette fois-ci c'est un peu particulier parce qu'on est en retour de pandémie, et en retour de pandémie tout est changé, je veux dire tous les chiffres sont on va dire un petit peu biaisés, le fait que l'emploi reparte très rapidement, c'est parce qu'il y a une situation exceptionnelle, et ça pourrait bénéficier à Biden qui apparaîtra comme celui qui a créé tous ces emplois. Donc en réalité on est face à une incertitude qu'on n'a jamais connu dans le monde politique. C'est souvent le cas aux États-Unis. On a à chaque fois aux élections des incertitudes. Mais cette fois-ci, plus que jamais, on ne sait pas du tout comment les électeurs vont réagir, même si pour l'instant, et c'est là où je voulais faire plaisir à Randy Allos quand même, Donald Trump n'a rien perdu, puisque sa cote de popularité est à 42-43. C'est exactement la cote qu'il a eue pendant tout son mandat.
Et vous pouvez juste nous resituer l'enjeu de ces élections de mi-mandat. Dans le meilleur des cas pour les Républicains, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer?
Ah, les deux chambres, c'est ce qu'ils espèrent. Ils espèrent récupérer la Chambre des représentants et le Sénat. Actuellement, on a 50-50 au Sénat, ce qui a le rapport leur est pas favorable, puisque eux vont avoir 20 sénateurs qui repartent en jeu et 14 pour les démocrates, avec des postes très difficiles à reconquérir pour les sénateurs républicains, notamment en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin et en Floride, puisque Marco Rubio est quand même sacrément attaqué en Floride. Donc ça va être très difficile pour les Républicains, mais c'est bien ce qu'ils espèrent, avoir les deux chambres. Et donc, à ce moment-là, effectivement, s'ils ont les deux chambres, on refera le même débat. Et je vous dirai que Donald Trump va revenir très rapidement.
Ils ont des raisons d'espérer. Il a des raisons d'espérer, effectivement, de peser ainsi sur ces midterms, Anne-Elisabeth Moutet.
Alors oui, et parce que dans chaque État, évidemment, il y a un calcul de lutte ou de sujet qui est différent suivant l'État. Ça peut être le chômage, ça peut être le traitement de la pandémie, ça peut être ce qu'on appelle les guerres culturelles qui existent dans les deux sens, ça peut être des réactions au fait qu'on a l'impression que Joe Biden suit plutôt la ligne de la gauche de son parti, très à gauche, et ça peut donner donc des résultats surprenants. Mais ce qui va être extrêmement intéressant, c'est le fait que si... Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas tellement les Républicains et qu'ils vont tous rendre visite à Trump à un moment ou à un autre, à Mar-a-Lago, là où il est installé à Palm Beach? C'est parce qu'ils ont très peur que s'ils sont oppose à Trump avant les élections, ils perdent leurs élections parce qu'il y aurait la malédiction des gens qui ont osé maltraiter le président, déjà tellement maltraité dans leur idée. Si il est prouvé que l'appui de Trump est important et que ne pas s'identifier avec Trump est mauvais dans ces élections, ça sera un test pour le parti républicain et Trump peut revenir comme candidat républicain. Si au contraire il y a des surprises dans certaines circonscriptions, alors à ce moment-là il va y avoir quelque chose de beaucoup plus embêtant pour les républicains mais beaucoup mieux pour les démocrates, qui veut dire qu'on va avoir le truc classique où vous avez deux candidats différents à droite, qui se battent, qui ne se réconcilient pas, et là, mathématiquement, ça fait gagner les démocrates.
D'accord. Randy Yalos, c'est effectivement un test pour votre parti, le Parti des Républicains, c'est ces élections de mi-mandat. En cas de succès, Donald Trump revient en force, tout le monde a eu raison d'avoir peur de lui et de s'associer encore à lui. En cas d'échec, finalement, peut-être commencer à se détacher de la figure de Donald Trump?
Je pense que c'est même trop tôt d'en parler. Aujourd'hui, je pense que la ligne des partis démocrates est très à gauche. Et je crois que c'est des facteurs très importants pour les élections de mi-mandat au niveau de l'augmentation des impôts. Un record qui est une augmentation de 3 000 milliards de dollars en impôts, qui est même, il y a un niveau de désapprobation aux Américains qui n'a jamais été vu au niveau des classes moyennes par rapport à ces élections. Donc, ça aura un impact au niveau des électeurs de Biden qui ont élu. Et ça, on a vu dans les sondages. Par rapport à l'insécurité, élément très important qu'il a suivi la ligne de sa partie pour réduire les financements des polices au sein des différents États et des villes, grandes villes des États-Unis, qu'on a vu une explosion des crimes et des meurtres dans les grandes villes des États-Unis. Et là encore, on aura des surprises parce que la sécurité chez soi, et surtout c'est les minorités et dans les cités, parce que quand on réduit les budgets de la police, ce n'est pas dans les quartiers riches qu'il y a des problèmes, c'est dans les quartiers pauvres qu'il y a plus de problèmes. Plus de délits, plus de crimes, plus d'insécurité. Et là, il y aura des surprises pour les démocrates. Donc,
Biden, tout ça, c'est au passif de Joe Biden.
Oui, mais c'est ce qui fait qu'il donne plus de poids aux républicains pour les prochaines élections. S'il était plus centre et modéré comme Obama était, je dirais, pendant sa mi-mandat, il aura plus d'échanges de garder plus des représentants dans la Chambre des représentants et des sénateurs. Là, aujourd'hui, il a une grande difficulté de gérer sa propre majorité. Et c'est là la force des républicains aussi. C'est la faiblesse des démocrates.
Jean-Éric Brana, vous confirmez, je suis désolé encore une fois, on va devoir résumer un peu, mais on reviendra dans la dernière partie sur ce point. Est-ce que Joe Biden, avec ses politiques très à gauche par rapport à celles de Barack Obama, fait un peu le jeu dans ses premiers mois de pouvoir des républicains?
Alors moi je vais vous contredire, hein. Joe Biden n'est pas du tout une politique très à gauche, il a une politique qui est du Biden, ce qu'il nous annonce maintenant depuis qu'il était vice-président, hein. C'est à peu près la même à part en politique étrangère, il n'a quasiment rien changé avec quasiment les mêmes arguments, et pour l'instant ce qu'il essaie de faire bien au contraire c'est de réconcilier le pays, comme il l'a dit hier, c'était le 4 juillet la fête nationale américaine, il a expliqué que le pays commençait à se réconcilier, et c'est vrai qu'il y a notamment un vrai accord sur les infrastructures, une proposition de Trump d'ailleurs, rappelons-le, qui est en train de se mettre en place et qui pourrait avoir un effet assez incroyable sur la plupart des États et surtout dans les États républicains dans lesquels on manque de beaucoup de choses. On peut prendre la Virginie occidentale par exemple, qui est un État sinistré. Et c'est vrai que donner du travail à travers les infrastructures, eh bien c'est faire baisser le chômage et c'est bien ce qu'attendent les Américains aujourd'hui. C'est la priorité numéro un, pas l'insécurité. Elle est importante, mais c'est pas ça qu'on attend. C'est d'abord cette lutte contre le chômage, le bien-être de chaque Américain, et puis ensuite, c'est du cosmétique. Hein. Chacun y met ce qu'il veut, et Anne et Elisabeth l'a bien expliqué tout à l'heure. Les enjeux sont locaux, très différents d'un endroit à un autre, mais la première priorité, c'est quand même la lutte contre la pandémie et la reprise économique.
Merci. On revient dans un instant sur cette importance de convaincre rapidement pour Joe Biden avant ses élections de mi-mandat et le possible retour, encore une fois, de Donald Trump.
Europe Soir, le 18-20, Rémi Botsaron.
Le débat du Club des idées sur Europe 1 ce soir autour de la figure de Donald Trump qui réapparaît dans le débat américain et donc évidemment mondial. Alexandre Mandel, je me retourne vers vous. On vous a retrouvé pour cette question parce que je pense que ça peut encore être un mystère pour beaucoup de Français. On a vu il y a 9 mois un homme être vraiment battu nettement à l'élection américaine, contester l'élection de son rival, être débouté par la justice à de nombreuses reprises et qui peut revenir 9 mois plus tard et de nouveau peser dans le débat et être suivi par une majorité des sympathisants républicains. Est-ce que, alors vous avez peu de temps pour le faire, mais vous pouvez expliquer un petit peu ce mystère que peut-être est difficile à saisir pour les Français.
Alors, bon, déjà, Trump, aujourd'hui, il vient de faire deux grands meetings, disons, un dans l'Ohio, un dans la Floride. Et vous noterez que Trump ne prend pas beaucoup de risques. Il va finalement dans des États où il est sûr qu'il conservera ou il fera basculer quelques sièges à la Chambre des représentants. Parce qu'il est certain que la Chambre des représentants basculera du côté républicain en 2022. Donc là, il va dire, Trump va dire, regardez, j'ai fait des meetings partout où les républicains ont regagné des sièges. Ce qui sera plus intéressant à regarder en 2022, c'est le Sénat. Et pour l'instant, Trump, il est très discret, pour pas dire, il est un petit peu à l'écart là-dessus. C'est-à-dire que Trump ne va pas dans les 10 États très intéressants à suivre pour les sénatoriales. Je pense notamment à la Pennsylvanie, à la Géorgie, à l'Arizona, au Wisconsin, au Nevada. Je vais pas tous les citer.
Il n'a pas là où ça compte vraiment, en fait.
Et ça, là-dessus, il est très discret là-dessus. Le fait qu'il puisse, si vous voulez dire, ça, c'est très Trump. Moi, je constate toujours que Trump, finalement, c'est quelqu'un qui ne prend pas énormément de risques politiques. Trump pourra dire, le lendemain des élections de 2022, « Regardez, mon influence est telle qu'on a repris la Chambre des représentants. » Sauf qu'on oublie, et ça, Jean-Éric Brana pourrait le confirmer, que sur les 19 dernières élections d'après Seconde Guerre mondiale, 17 ont toujours été remportées à la Chambre des représentants par le parti opposé au président au pouvoir. Donc c'est pas quelque chose de phénoménal. Mais j'imagine qu'on va le présenter en Europe comme quelque chose de phénoménal. Ce qui serait phénoménal, c'est qu'il aille s'engager dans les États. Surtout que le découpage électoral est tel que ça lui est pas tellement favorable, les sénatoriales, là, en 2022. Ce qui serait phénoménal, c'est que les Républicains récupèrent le Sénat et la Chambre des représentants en même temps. Et là, ça lui donnerait une chance. Parce que vous me demandez, est-ce qu'il est toujours populaire au Parti républicain ? Bah oui et non, il est populaire très clairement auprès de sa base. Oui, il arrive à faire 10 ou 20 000 personnes assistant à ses meetings. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il va pouvoir convaincre les électeurs indépendants qui lui ont fait défaut pour l'élection de 2020 et qui ont fait qu'il a été battu par Biden. Et ça, moi, ça, j'en suis moins sûr. Parce que quand on regarde les derniers sondages, il perd quand même beaucoup d'influence à la fois auprès des membres du Parti républicain et auprès des sympathisants du Parti républicain.
Jean-Éric Brana,
vous... Je veux dire, ouais. Est-ce que oui ou non, il a une telle influence ? Moi, aujourd'hui, j'en suis pas si sûr que ça, parce que les thèmes abordés par Trump, comme l'immigration, l'identité, la sécurité, c'est finalement des thèmes, si vous voulez, si on veut parler de 2024, qui sont automatiquement abordé par ses concurrents à la primaire. Si Trump pense à 2024, il faut qu'il pense à la primaire. Et à la primaire, il va être opposé finalement à des gens qui sont assez d'accord avec lui, c'est-à-dire Pence, son ancien vice-président, et c'est aussi Ted Cruz. Et là, ce sera beaucoup plus intéressant. Ce que je sais de gens du Parti républicain que je connais, c'est que le gros pari qui est fait aux États-Unis, c'est qu'en effet, Trump ira jusqu'en 2024, il ira jusqu'au seuil de la première primaire aux États-Unis, qui est celle de l'Iowa en février 2024, justement, et qu'il abandonnera ensuite. Il ne faut pas oublier aussi une autre chose, c'est que Trump, je sais que c'est le même cas pour Biden, mais Trump, il n'est plus tout jeune. Trump, c'est plus le gars de 2016 qui révolutionnait les choses, qui venait de la télévision réalité. C'est pas le,
il a 74
c'est pas le nouveau-né de la politique républicaine. Et moi, je suis beaucoup moins persuadé, finalement, que vos interlocuteurs, que son poids sera démesuré au Parti républicain. Ce qui ne veut pas dire, en revanche, que ces thèmes qui ont porté en 2016 et qui ont, c'est vrai, porté en 2020, parce qu'il a quand même eu, avec presque 75 millions de voix, une confortable assise aux États-Unis.
Oui, il va continuer à imposer ses thèmes, voilà, malgré tout. Voilà. Jean-Ric Brenat, je vous pose la question justement, est-ce que vous avez le sentiment aussi d'une popularité peut-être en faux-semblant et d'un poids en faux-semblant pour Donald Trump, qui ne pourra plus convaincre ceux qui ont été effrayés par les tournures des événements après l'élection ?
Ah mais absolument, on assiste actuellement, c'est assez classique, hein. On aime le président parce que c'est l'ancien président, et puis il y a l'idolâtrie, les gens qui sont sa base forte, qui l'ont suivi quoi qu'il arrive, qui réfléchissent pas à ses arguments, ils le suivent, il dit blanc, bah ils vont dire blanc comme lui, il dit noir, ils vont changer d'idée, ils vont dire noir, ça c'est environ 20% de ceux qui le suivent. Les républicains aujourd'hui sont en train d'essayer de se reconstruire, ils ont des leaders d'ailleurs qui les amènent sur d'autres voies, qui effectivement sont pas très loin de Trump, mais pour certains ils sont quand même en train de s'écarter de lui. Je pense à Nikki Haley, par exemple, qui est assez redoutable et sur qui il faudra compter aussi Alexandre Lapacité, mais je pense qu'il l'avait en tête. Ou Christine Noem dans le Dakota, qui est en train de faire avancer ses pions, qui sont deux jeunes femmes qui vont essayer de se présenter contre Kamala Harris, parce que n'oublions pas que si on parle d'un candidat, il faut aussi parler de son opposition, et l'opposition, ce ne sera pas Joe Biden, ce sera Kamala Harris. Donc aujourd'hui, on essaie de se placer par rapport à elle. Donald Trump ne fait pas le poids, parce que c'est un vieil homme blanc qui représente le passé et qu'elle est exactement tout le contraire et qu'elle représente l'avenir. Donc il va falloir avoir en face un candidat ou une candidate qui peut présenter aussi ce nouveau visage de l'Amérique et regarder droit devant. Et les républicains essaient aussi de se trouver un personnage de ce type-là, charismatique, qui peut les amener vers l'avenir et vers la conquête.
Randy Yalos, je vous pose la question forcément, est-ce que ce vieil homme blanc, tel qu'il est présenté par Jean-Éric Brenat, peut se présenter face à Kamala Harris en 2024 ?
Je les trouve assez dérangeants d'emploi ces vieux hommes blancs contre Monsieur Trump. On peut dire la même chose de Monsieur Biden. Pourquoi quand il s'agit de Monsieur Trump, on emploie ces termes et on ne parle pas de Biden de la même manière? C'est assez dérangeant et c'est assez...
C'était
classé.
En comparaison avec Kamala Harris particulièrement, si ce duel se profile.
Et Kamala Harris, il faut savoir que Kamala Harris, elle avait une grande difficulté pour rassembler les camps démocrates pendant les élections de 2020. N'oubliez pas qu'elle avait beaucoup de mal parmi tous les candidats. Et elle n'a même pas atteint, si je ne me souviens pas, les 10% des électeurs dans les camps démocrates. Donc, pour moi, elle n'est pas un poids lourd pour les prochaines élections. Elle n'a pas la personnalité pour porter ces élections. Peut-être qu'il y aura un autre candidat dans les camps démocrates. Elle, déjà, elle avance parce qu'aujourd'hui, les adversaires qu'elle a, Newsom et Cuomo, sont mis en cause en New York. Et en Californie, il y aura des réélections dans l'État de Californie qui vont arriver. Donc pour aujourd'hui, j'estime que pour les prochaines élections, c'est très possible. En tout cas, il laisse sous-entendre qu'il va être là. On ne sait pas quelles sont les choses, mais il souhaite avoir un rôle. Il faut savoir, c'est ça l'avenir de
la
Trump.
La conclusion sera pour Anne-Elisabeth Moutet, très rapide. Donald Trump, peut-être face à Kamala Harris en 2024, c'est crédible aujourd'hui?
Peut-être. Je ne suis pas, moi non plus, je ne la vois pas en train de gagner des primaires parce qu'elle a vraiment été mauvaise dans les primaires et d'autre part parce que l'équipe de Biden lui savonne la planche en ce moment. Ils lui ont donné un boulot impossible qui consiste à aller à la frontière et à réparer la situation d'immigration à la frontière, alors que c'est intenable que Biden, après avoir donné des messages contradictoires, en réalité applique en grande partie la politique qui était celle de Trump et celle d'Obama avant Trump, qui consiste à ne pas laisser rentrer trop de monde. Et en gros, on l'a mise dans une situation où elle est la femme qui laisse rentrer les immigrants. Et vous remarquez à quel point d'ailleurs tout le dialogue dans le pays a viré à droite sans que personne fasse trop attention. Donc, je pense qu'elle a des ennemis au sein de son propre parti, simplement parce qu'elle est la vice-présidente et qu'il ne faut pas que ce soit la jeune femme qui rende Biden vieux. Et je ne la vois pas arriver en 24.
Et ça pourrait peser si elle se retrouve peut-être face à Donald Trump en 2024. On a le temps d'ici là. Évidemment, on est dans quelques années. En tout cas, merci beaucoup à vos éclairages, monsieur, à tous les quatre pour ce débat du Club des idées. 19h50 sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve les précieuses archives d'Europe 1.
Europe 1, Rémi Bozzaro.
19h53, c'est l'heure de votre rendez-vous avec les archives d'Europe 1. Et vous l'avez entendu toute l'année à cette heure-ci avec le travail minutieux des journalistes de la rédaction. Alors aujourd'hui, à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes, retour sur une claque cinématographique des années 90. C'est Le Jour Où avec Isabelle Millet et Angèle Châtelet.
Le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Bonsoir Angèle Châtelier.
Bonsoir Isabelle.
On parle ce soir de l'un de mes films préférés, l'un des films les plus grands de tous les temps.
Everybody be cool, this is a robbery.
Forcément reconnu la musique de Pulp Fiction, film qui était il y a tout juste 27 ans, Angèle, présenté à Cannes.
Avec l'une de ses têtes d'affiche, Pulp Fiction, c'était John Travolta, comme le rappelait Michel Grossiure à l'époque sur Europe 1.
John Travolta, et oui, c'est la star du week-end ici à Cannes. John Travolta que nous avons rencontré ce matin, il fait un retour saisissant dans un film d'une grande violence qui sera également présenté ce soir, violence pondérée heureusement par un solide humour. C'est le film du jeune réalisateur américain Quentin Tarantino.
Le soir du combat, tu sentiras peut-être comme une piqûre d'insecte. L'amour propre, ça fait mal, mais ça sert à rien.
John Travolta, d'ailleurs, qui à l'époque était tête d'affiche de films comme Grease, La fièvre du samedi soir, pas de film vraiment indépendant, un peu d'élite. Et c'est ce film, Pulp Fiction, qui a permis de changer sa réputation, de rendre John Travolta un petit peu plus branché. Quentin Tarantino, lui, n'avait jusque-là présenté qu'un film à Cannes, Reservoir Dogs, et encore, il était minuit. Mais Harvey Weinstein, alors encore grand mania du cinéma, croit en les capacités de Quentin Tarantino et distribue Pulp Fiction. Son plan était parfait pour faire saliver, ne proposer qu'une seule séance de visionnage pour les journalistes pendant le festival, comme si c'était un événement.
Et ça l'a été, on imagine.
Et évidemment, après, les journalistes se sont rués à la conférence de presse, mais il manquait quelqu'un, Bruce Willis, l'un des personnages principaux. Il avait fait trop la fête la veille, mais il a fini par arriver avec 20 minutes de retard.
Et quelques jours après, eh bien c'est l'ovation pour Quentin Tarantino.
Et oui, le 23 mai 1994, Pulp Fiction reçoit la Palme d'Or de la 47e édition du Festival de Cannes.
La récompense suprême est donc revenue à Pulp Fiction, un polar ironique et baroque du jeune réalisateur Quentin Tarantino.
Et dans la salle, on entend « Quelle daube, mais quelle daube !» tandis qu'ému, Quentin Tarantino et les autres montent sur scène pour récupérer leur dû et faire un discours. « Mes films, dit-il, font exploser les opinions des gens. »
Ah ben non, c'est surtout pas une daube. Et d'ailleurs, le film, Angèle, fait un carton.
Et oui, en France, le film fait presque 3 millions d'entrées. Et dans le monde, Pulp Fiction fait 215 millions de dollars de recettes. Lui qui a coûté 25 fois moins, parce qu'il a coûté environ 9 millions d'euros.
Allez, et puis il y a cette chanson, bien sûr.
Évidemment, cette chanson Miss Sirlou est initialement une chanson grecque populaire folklorique qui m'a été popularisée en 1963 par Dick Dale. Puis, grâce au succès de Pulp Fiction, depuis de nombreux artistes se la sont appropriés. Les Beach Boys, Rachita et plus récemment, les Black Eyed Peas avec leur tube Pump It qui était sorti en 2006.
De la musique encore dans Europe 1 Soir et ça fait plaisir de l'entendre effectivement, cette BO de Pulp Fiction. Merci à Isabelle Millet et Angèle Châtelier.
Europe 1, Rémi Bozzaro.
Dans un instant, le rappel de l'actualité avec Julien Pierce et puis juste après, Europe 1 Football Club avec Lionel Rosso. Quel programme ce soir, Lionel? Bonsoir.
Bonsoir Rémi. Joli programme, pas de match, vous le savez, les demi-finales ont lieu demain, on les suivra en intégralité sur Europe 1, mais on va se pencher déjà sur ces demi-finales. On l'a fait hier, on le refait encore ce soir, notamment avec l'équipe demi-finaliste la plus séduisante selon nos experts, mais selon nos auditeurs sur Europe 1.fr. puis on parlera de l'équipe de France avec cette vidéo dérapage sans doute avec des propos racistes de Griezmann et Dembélé, une vidéo qui date de 2019 et qui est ressortie. On en parlera avec nos experts. On parlera également de la future rencontre cette semaine entre Noël Le Graët et Didier Deschamps pour parler de l'avenir de Deschamps en tant que sélectionneur, et Daniel Picouli, l'écrivain, romancier, grand passionné de foot et notre invité VIP ce soir. Voilà pour le programme, Rémi.
Très beau programme, Lionel, merci beaucoup, très belle soirée à vous. On se retrouve demain, nous, à 18h, et d'ici là on écoute Le Monde Changer, bien sûr.